Si entreprendre est dans l'air du temps, prendre soin des autres, de la planète et de son territoire l'est tout autant. Je suis Géraldine Tressard et dans mon parcours de productrice de vidéos corporate, j'ai été amenée à couvrir des interviews pour le concours régional de l'entrepreneuriat par les femmes en Centre-Val de Loire. C'est à cette occasion qu'une femme un jour m'a raconté la célèbre légende du colibri. Un jour, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux, terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s'activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Mais colibri, t'es pas fou, c'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu. » Et le colibri lui répondit « Je le sais, mais je fais ma part. » Nous vous proposons dans ce podcast de partir à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de suivre le colibri et de faire leur part. Je serai accompagnée de Sébastien Nérault, directeur de France Active Centre-Val de Loire et spécialiste de la finance solidaire. Sébastien, bonjour.
Bonjour Géraldine.
Isabelle nous racontera à quel point l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle est important. Et elle nous expliquera également en quoi, pour elle, c'est très important de favoriser et de privilégier ses équipes. Et toi, Sébastien, on t'entendra la questionner et voir jusqu'où on peut aller pour franchir une étape de plus. Isabelle, bonjour.
Bonjour Géraldine.
Est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, je m'appelle Isabelle Pangot, j'ai 39 ans, je suis vigneronne dans le Loir-et-Cher, un domaine qui s'appelle l'affût que j'ai créé en 2018.
Alors, le milieu de la vigne, c'est un choix, j'imagine, parce que c'est quelque chose qu'on fait forcément avec le cœur. Tu es issue de ce milieu ou c'est arrivé plus tard ?
Oui, c'est arrivé plus tard, en effet. Personne dans ma famille n'est du milieu viticole. Moi, je suis plutôt du monde de la forêt, en fait. Mon père était sieur de chêne dans le Loir-et-Cher et j'ai connu finalement le vin par la barrique. Et j'ai décidé, donc j'ai commencé aussi par des études forestières, j'ai un BTS en gestion forestière, et finalement j'ai découvert le vin à l'occasion d'une dégustation justement sur des tests sur différents fûts de chêne de différentes forêts. Et du coup, je me suis intéressée au vin et j'ai découvert que voilà, c'était un produit noble et vivant comme le bois, mais qui avait en plus cette dimension sensorielle que j'aimais beaucoup, une dimension culturelle évidemment, historique, et puis ces vecteurs de rencontres, de voyages, donc ça me correspondait tout à fait. Et c'est vraiment plutôt un déclic personnel qui m'a fait à un moment me lancer, c'est le fait d'avoir mon fils. J'étais alors à Narbonne sur un gros poste dans une union de caves coopératives. Et le papa étant aussi du Loir-et-Cher, on a eu envie, quand Martin est né, de revenir chez nous, pour que Martin puisse profiter de ses grands-parents comme nous, on avait eu la chance de le vivre. Et c'est là où, en fait, de revenir à la maison, je me suis dit, mais il y a un joli vignoble aussi ici que je connais, mais dans lequel je n'ai jamais travaillé. Je vois qu'il y a un problème de renouvellement de génération. Je vois que peut-être avec mon regard, un vécu extérieur, je peux apporter des choses aussi peut-être nouvelles. Allons-y. Et du coup, j'ai commencé à chercher des vignes avec le bébé de 6 mois sous le bras et ça s'est fait comme ça. Après, c'est vrai qu'il fallait trouver le bon endroit où je me sentais bien. Il fallait aussi avoir un bon feeling avec le cédant parce que c'est quand même très engageant, c'est important. Il faut être en confiance avec la personne qui va nous céder son entreprise, même si j'allais tout changer par rapport à l'existant. Donc ça a été vraiment la découverte. La première année, j'ai observé mes parcelles, comment mes vignes se comportaient, comment les sols se comportaient en fonction de la pluie, en fonction de comment je les travaillais. Est-ce que mes racines étaient superficielles, profondes ? Donc c'est beaucoup d'observations, beaucoup d'ouverture, parce que du coup, on peut avoir une idée de ce qu'on veut faire comme style de vin, mais il y a un moment où il faut respecter ce que la nature veut nous donner, à savoir le potentiel de son terroir, et puis les cépages existants. Je veux dire, moi, j'ai replanté des vignes en 2020-2021, mais les premières années, j'ai fait avec des vignes existantes que j'ai reprises, des vieilles vignes. Donc là, sur le choix des cépages, j'ai pris ce qu'il y avait. Clairement, par contre, dans les assemblages que j'ai choisi de faire, là, il y a vraiment une patte personnelle. Et ça, c'est mon expérience qui a beaucoup fait. C'est-à-dire que je faisais beaucoup, justement, d'assemblages dans mes jobs précédents. Et donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Comment tel contenant d'élevage, de vinification ou tel cépage peut rapporter une dimension supplémentaire à un assemblage. Ça, c'est vraiment ce que j'aime faire.
C'est un peu de la magie, non ?
C'est oui, il y a à la fois dans ce métier, c'est génial parce que, et moi je suis très comme ça, il y a à la fois une une part de moi qui est très scientifique et une part de moi qui est très dans le ressenti et dans la sensibilité. Et donc ce métier, il laisse vraiment les deux parties s'exprimer parce qu'on a à la fois besoin d'avoir une grande connaissance technique des choses et sur plein de sujets très divers. Quand on va de la vigne à la mise en bouteille, c'est hyper diversifié les sujets qu'on traite. Et en même temps, il y a une place pour l'empirisme, il y a une place pour l'alchimie, pour des choses qu'on ne comprend pas mais qu'on ressent.
Il faut être à l'affût.
Exactement.
Sébastien, est-ce que tu peux nous rappeler en quoi consiste l'engagement d'une entreprise ?
Alors chez France Active, on a défini depuis quelques années l'engagement autour de 5 piliers, 5 grands axes en fait. L'emploi, un pilier sur le territoire, comment je suis impliqué dans mon territoire, comment j'agis sur des besoins mal couverts sur mon territoire, le choix de l'emplacement de mon entreprise. La gouvernance, c'est-à-dire comment je fais entreprise avec mes salariés, avec mes parties prenantes. Le pilier environnement, qui est vraiment au cœur aujourd'hui de n'importe quelle démarche, on va dire quasiment d'entrepreneuriat. Et puis la partie sociale, le projet social. Alors soit le projet lui-même répond à un besoin social, l'ensemble du projet, soit dans n'importe quel projet, n'importe quelle entreprise, on peut se poser la question de l'accessibilité, des tarifs, de comment mes produits peuvent être accessibles aussi à certains publics, etc. Donc une partie du projet peut être sociale si ce n'est pas l'ensemble du projet.
Ok. Et donc toi, maintenant qu'on a dit tout ça, Isabelle, dans quel type d'engagement tu te reconnais ?
Dans plusieurs. C'est vrai qu'il y a déjà un engagement par rapport à mon territoire parce que clairement ce projet, comme j'ai dit tout à l'heure, je l'ai engagé là-bas parce que c'était chez moi et que j'étais attachée à ce territoire-là et je ne l'aurais pas fait ailleurs. Donc déjà, il y a une dimension engagée dès le départ en fait, dans le fait de se dire « Ah mais je vois qu'il y a une problématique de renouvellement de génération et que si il n'y a pas de jeunes qui s'installent, bah, c'est des surfaces soit qui partent à la friche, donc moins de surfaces viticoles, soit qui partent à l'urbanisation, soit qui partent à la concentration d'autres grosses entreprises ou alors rachetées par le négoce, mais on perd des identités vigneronnes et je trouvais ça vraiment dommage. Donc déjà, la volonté de s'installer là, elle est aussi née de ce constat et du fait que je voulais pas que ça arrive chez moi et que je voulais pouvoir participer à ça. Et puis bah, c'est vrai que là on est en train de créer par exemple un groupement de producteurs 100% Sologne avec des éleveurs de brebis solognottes, avec des apiculteurs qui élèvent la race abeille noire de Sologne, enfin voilà, avec des gens qui vraiment sont insérés et engagés dans leur milieu et où on a envie de pouvoir porter haut et fort les couleurs de notre territoire dans ce qu'il a de beau en termes de potentiel agricole et gastronomique. C'est un autre exemple d'engagement local. Ensuite, c'est vrai que l'engagement qui m'a paru le plus évident dès que j'ai pris la décision de m'installer, c'était un engagement environnemental, puisque j'ai, dès la deuxième année, converti l'ensemble de mes surfaces, donc 14 hectares d'un coup, ce qui n'est pas une mince affaire, en agriculture biologique. Donc ça demande toujours des ajustements, hein. C'est une conversion donc, qui dure 3 ans. Je vais avoir en 2022 du coup mon premier millésime certifié bio.
Félicitations.
Je me sens pas encore arrivée parce que je maîtrise pas encore, je suis pas encore satisfaite à 100% de la manière dont je gère mes itinéraires techniques bio, mais j'y travaille et en tout cas au moins je fais les choses en accord avec mes valeurs. Évidemment, je suis collée à un bourg. J'entends quasiment les cris de mon fils dans la cour de récréation quand il y a le vent d'ouest. Donc, je ne m'imaginais pas balancer des produits dangereux dans l'atmosphère ou dans mes sols. Voilà, donc ça, c'est aussi une façon de prendre soin de l'endroit où je suis. Et puis après, je pense plus à un côté un peu humain, avec à la fois l'emploi, parce que c'est vrai que j'ai créé 2 emplois ex nihilo et que par le choix des profils que j'ai fait et la manière de les recruter, j'ai permis à 2 personnes qui connaissaient pas ce métier de se reconvertir et de s'éclater, de découvrir un nouveau secteur. Donc j'ai embauché Nelson et Valérie qui étaient tous les deux complètement novices. J'ai fait le choix en fait de plutôt sélectionner des gens avec qui j'avais un bon feeling, qui avaient un vrai savoir-être, qui étaient fiables, qui avait envie d'apprendre et qui était intelligent. Et bah après, on a fait tout le reste, la formation, parcours de formation parfois à l'extérieur. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en formation. Donc, je savais dès le départ que j'allais pas du tout être optimale en termes de fonctionnement, qu'on allait prendre beaucoup de temps pour la formation, pour les explications, qu'on allait tâtonner. Moi-même, il y avait des choses que je découvrais aussi. Mais je l'ai accepté, je me suis dit, bah voilà, en même temps, du coup, on a construit une vraie équipe. Et bah, l'année dernière, par exemple, où j'ai eu un gros coup dur, des aléas climatiques qui ont ravagé, qui ont vraiment mis à mal ma récolte, j'ai perdu 80% de ma récolte. J'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Et bah, je m'en suis ouverte à mes salariés. Et le premier truc qu'ils ont fait, c'est me mettre la main sur l'épaule et me dire comment on peut t'aider. Et là, tu te dis, bah, j'ai créé une équipe, une vraie équipe oui. soudée. Voilà. Donc, ouais, c'est pas forcément les personnes les plus rapides, les plus efficaces tout de suite. Mais bah, c'est des gens qui, psychologiquement, me soutiennent. C'est un investissement qu'on fait dans l'humain. Mais vraiment, je trouve que quand on fait des bons choix et qu'il y a une vraie rencontre professionnelle, bah, on le regrette pas du tout parce qu'on crée une vraie équipe, quoi.
Oui, et puis une famille. Enfin, ouais, là, clairement. On est au-delà de l'équipe, quoi.
C'est ça, c'est ça.
Quand on a des aléas climatiques comme ceux dont tu m'as parlé tout à l'heure, comment on garde cet engagement ? À quel moment on n'a pas envie d'aller vers des produits un peu miraculeux alors qu'on est au pied du mur ?
Bon, déjà, il n'y a pas de produit miracle hein, qui va te D'accord. sauver du gel ou de la grêle. Donc, dans tous les cas, voilà. Après, oui, j'avoue, il y a eu des années 2012 très fort où ça pouvait être tentant peut-être de remettre un produit systémique autorisé qu'en conventionnel pour essayer de sauver les meubles.
Ouais.
Sauf qu'en fait, quand tu le fais par conviction, quand c'est pas par opportunisme, tu te vois pas juste faire autrement.
Oui.
Donc si t'es entier, bah, y a pas d'option. Et donc moi, je me suis toujours dit, je ferai comme ça ou je ne ferai pas. En fait. Je D'accord. préfère arrêter
ouais.
que de pas pouvoir le faire en accord avec mes valeurs.
Eh bien, bravo déjà pour ça. Sébastien, est-ce que tu as des questions ou est-ce que tu veux réagir par rapport à ce qu'Isabelle vient de nous dire ?
Non, bah, moi je trouve de très belles illustrations effectivement et des exemples sur les différents piliers qui ont été dits. Sur le pilier territoire, on a justement un axe qui est le développement de partenariats avec les acteurs du territoire, les prestataires avec lesquels tu travailles, bah, je sais pas, les bouteilles, les bouchons, est-ce qu'il y a des réflexions aussi sur le local ou est-ce que ça c'est compliqué encore dans ton activité ?
Alors c'est pas toujours possible, mais à chaque fois que c'est possible, effectivement, c'est quelque chose que j'ai essayé de mettre en place. Mes fûts de chêne, ils viennent de Montpré-Chambord, donc le village où j'ai grandi, en face de la scierie de mon père. Je vais les chercher en camion, ça vient des forêts locales du centre-val de Loire. Donc là, on peut pas faire plus local. Sur toutes les matières sèches, alors j'ai pas toujours, comme je passe parfois par des intermédiaires, j'ai pas toujours la main, mais oui, j'avais une cartonnerie de l'Orléanais. Mes étiquettes, elles sont imprimées à Tours. Donc oui, j'essaye de faire attention, de faire travailler au maximum les locaux. Là, j'ai un projet sur du moyen terme, de nouveaux chais. Bah, l'idée, c'est aussi de faire travailler des entreprises locales. C'est clairement quelque chose aussi qui m'intéresse et je suis assez intégrée aussi dans des cercles d'entrepreneurs locaux qui permettent de faire ce genre de rencontres et vraiment bah, d'activer les connaissances et le cercle vraiment local pour faire les choses. Ouais.
Comment ton équipe elle est aussi intéressée aux résultats?
Alors déjà, ils ont des salaires de base qui est supérieur à ce qu'on observe en moyenne autour de moi. Et après, sur la partie vraiment gouvernance, aujourd'hui, ils ne sont pas encore demandeurs parce que pas assez sûrs d'eux sur plein de choses. Mais voilà, en tout cas, moi, j'essaye toujours de les pousser à l'initiative, à proposer des choses. Au contraire, moi qui ai justement eu une période un peu difficile l'année dernière, bah, j'avais besoin de pouvoir déléguer. Et donc, ça a été gagnant-gagnant pour eux de pouvoir vraiment prendre toute leur place et pour moi de pouvoir me reposer davantage sur eux.
On parlait de la place des femmes tout à l'heure, moi ça m'intéresse de t'entendre, mais du coup on n'ose plus poser de questions avec Sébastien. On en a parlé dans les deux derniers podcasts d'une vidéo où on pose les mêmes questions ah, aux oui. femmes qu'aux hommes. Quelle est
est-ce
notre
que vous posiez des questions genrées?
C'est ça. Et finalement, est-ce qu'on ne met pas les femmes dans un embarras à leur poser des questions en tant qu'entrepreneureux? puisqu'on a eu aussi la discussion juste avant d'entamer ce podcast sur entrepreneureux ou entrepreneuse. Mmh. Mais puisque tu le proposes, ça m'intéresse de t'entendre justement dans ce milieu qui est le milieu agricole. Comment ça se passe ?
Je sais que certains disent que oui, si on veut traiter les femmes d'égal à égal avec les hommes, on ne devrait pas justement poser ce genre de questions qui montrent déjà qu'elles sont une classe à part. Sauf que la réalité, c'est qu'elles sont quand même une classe à part dans beaucoup de milieux. Donc moi, je ne suis pas gênée avec le fait quand même d'en parler parce que c'est une réalité pour beaucoup de personnes.
C'était notre réponse aussi, donc ça nous convient parfaitement.
Bien
on s'est dit que tant qu'il n'y avait pas d'égalité, en fait, il fallait en parler. Pour
et
que
si
justement
on se la pose dans notre tête, c'est que elle a, cette question, elle a sa place,
oui,
en fait.
Tout à fait.
Donc on peut la verbaliser. Donc oui, j'ai fait partie de deux associations, une qui a arrêté maintenant et une qui existe encore, qui s'appelait Women Do Wine et qui s'appelle les Wineuses de Loire, qui rassemblent des femmes qui travaillent autour du vin. Women Do Wine, c'est international, et Wineuses de Loire, c'est sur le Val de Loire, et notamment 37-41. L'idée étant de favoriser le partage d'expériences, la solidarité, de ne pas se sentir seule face à certaines problématiques. Il y a des problématiques qui nous sont propres, il ne faut pas se cacher. Moi, c'est vrai qu'il y a eu un moment où j'avais un enfant en bas âge, mon conjoint qui était entrepreneur, qui a lancé sa boîte en même temps que moi, et moi qui avais ce projet immense sur les épaules, et je me suis dit, mais comment on fait pour gérer tout ça ? Parce que c'est pas parce que je suis entrepreneuse que, bah, en fait, j'ai pas aussi un peu plus de charge du foyer que mon conjoint, même s'il fait aussi sa part, mais ça restera, enfin, ce sera jamais la même part qu'une maman, malheureusement. Enfin, j'espère que ça le sera un jour, mais pour l'instant, on n'en est pas tout à fait là encore. Donc oui, ça pose des vraies questions. Et moi, j'ai regardé autour de moi et je voyais pas de modèle, en fait. Autour de moi, c'était des vignerons qui se posaient jamais la question d'aller chercher les enfants à la garderie, d'aller prendre le rendez-vous chez le pédiatre ou d'organiser telle sortie, voilà, parce qu'il y avait quelqu'un qui gérait en cas de besoin. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai fait des choix, du coup, toujours dans le même principe de ça doit se faire comme ça ou sinon ça se fera pas. Bah, j'ai commencé à prendre une partie de mes mercredis avec mon fils parce qu'à un moment, bah, j'ai pas envie de choisir entre ma vie professionnelle et ma vie de maman. J'ai essayé de reprendre le sport pour avoir plus de temps pour moi. J'ai mis en place plein de choses pour essayer, moi, de me sentir mieux et d'être du coup peut-être moins présente en termes d'heures, mais plus efficace au travail. Et ça, en fait, c'est des choses dont les hommes parlent pas souvent parce qu'ils sont en mode machine de guerre, voilà. Sauf que quand on est une femme, justement, on a toutes ces dimensions-là à prendre en compte. Et du coup, ça demande de se ménager un petit peu plus et d'aménager, je pense, un peu plus son emploi du temps.
Alors, je vais passer à mes trois petites questions. Isabelle, est-ce que tu as un mentor ?
Alors, pas vraiment. Moi, je suis... En fait, comment dire ? J'ai la capacité, aussi bien pour moi, mais aussi pour les autres, on va dire, de voir à la fois vraiment les talents de chacun, mais aussi très rapidement leur médiocrité, on va dire. Et on en a tous, moi y compris, évidemment. Mais ce qui veut dire que j'ai beaucoup de mal à mettre certaines personnes sur un piédestal et à vraiment me dire « Ah, bah, c'est mon modèle ». En revanche, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent et en fait, je vais plutôt piocher des petites choses à droite à gauche. Et ça peut être dans plein de milieux différents, ça peut être dans le milieu de la musique où il y a, comme dans mon métier, un processus créatif aussi avec une dimension vraiment sensible. Ça peut être dans le milieu de l'entrepreneuriat avec des gens qui ont un mindset de fou et où on se dit mais comment ils font pour être aussi performants tout en maintenant une vie hyper écologique pour eux avec en se brûlant pas les ailes, en étant dans l'équilibre, en ne surréagissant pas au stress, en voilà. Donc en fait, je vais piocher un peu à droite, à gauche. J'ai fait pas mal de développement personnel l'année qui vient de passer pour essayer justement d'avancer sur, sur mon état d'esprit d'entrepreneur, parce qu'il ne faut pas oublier, quand on est entrepreneur, bah, notre entreprise, elle dépend à 90%, 80% aussi de nous.
C'est sûr.
Donc, si nous, on n'est pas performant et en bonne santé mentale et physique, bah, il ne se passe pas grand-chose. Donc, il faut aussi réussir à prendre ce recul-là, pour prendre soin de soi, pour que son entreprise, elle aille loin.
Et puis après, piocher un petit peu dans les inspirations, ça permet de ne pas être déçu aussi. Enfin, on ne
oui,
se raccroche
voilà.
pas qu'à une personne et
c'est
on,
ça.
On fait un mix de ce qu'on trouve intéressant chez les uns et chez les
oui.
autres. Moi, je suis assez d'accord aussi. que conseillerais-tu à un entrepreneur qui est engagé et qui est au début de son projet ?
Trois choses, je dirais. Bien se connaître. Enfin, s'il y a, je pense, deux phases dans sa vie où c'est vraiment intéressant d'avoir creusé un petit peu, d'avoir vu un psy. C'est avant d'avoir un enfant et avant de lancer son entreprise. Parce qu'en fait, on va tellement repousser ses limites qu'il faut déjà vraiment bien se connaître dans son fonctionnement, dans là où on a notre zone de génie, où on va pouvoir faire 20% d'efforts et avoir 80% de résultats, et essayer de structurer pour laisser le reste à d'autres. Où on va connaître nos, on a besoin de connaître nos besoins en termes d'alimentation, d'activité physique, de sommeil, de relations sociales. Et tout ça, en fait, c'est important, je trouve, de l'avoir vraiment travaillé avant, ou en tout cas au début, parce que du coup, on va faire tout de suite quelque chose sur mesure pour nous, et ce qui est quand même l'intérêt premier de faire son entreprise à soi, c'est de réussir à faire quelque chose qui soit sur mesure, où on côtoie les gens avec lesquels on se sent bien, où on est dans un environnement où on se sent bien, où on fait quelque chose qui a du sens pour nous et qu'on fait bien. Et donc, je trouve que ça a tout son sens vraiment de bien se connaître pour essayer de modeler vraiment son entreprise à son image, sachant de plus que si on fait quelque chose qui nous ressemble, bah normalement, ça va être beaucoup mieux perçu aussi par nos clients, nos partenaires. Et j'allais dire que c'est le deuxième conseil que je peux donner, c'est vraiment de travailler à fond la cohérence du projet, quoi. C'est est-ce que la façon dont je fais mon produit, mon service est cohérent avec qui je suis, est cohérente avec qui je suis, avec les valeurs que je porte, avec la manière dont je le présente, sur quel canal, à qui, à quelle cible, à quel prix. Est-ce que tout ça, ça sonne juste? Et si tout ça, ça sonne juste, normalement, on n'a même plus de marketing ou de commerce à faire. Moi, j'hallucine sur le fait que ce soit les sommeliers, les cavistes qui m'appellent la plupart du temps, juste parce que j'ai donné à voir ce que je faisais. Et comme il y a une certaine authenticité qui transparaît, bah, tout de suite, ça leur parle, en fait. Et donc, si on fait quelque chose comme ça de juste et de vraiment sur mesure pour soi, et forcément, ça va se sentir et on va attirer à soi tout un écosystème bienveillant aussi. Et peut-être le troisième conseil, c'est justement de penser dès le départ à cet équilibre vie pro-vie perso qui a vite fait d'être... Alors, évidemment, hein, je ne dis pas que j'ai fait 3 heures de sport par semaine les 3 premières années. Hein. Clairement, les 3 premières années, il n'existait que mon entreprise et mon fils. Voilà, c'est tout, quoi.
C'est ça.
Et bah, j'ai vu le résultat aussi.
Oui.
Et donc, c'est probablement nécessaire sur un démarrage, parce qu'on ne peut pas sortir une entreprise de terre juste en se tournant les pouces. Mais ce n'est pas tenable sur la longueur. Et si on veut à un moment que notre entreprise elle soit pérenne, bah, c'est important d'avoir... refait ses ajustements à un moment, de dire « Ok, la phase de lancement, elle est passée, j'ai fait le plus dur. Maintenant, je suis dans la phase de structuration pour viser le plus long terme. Comment je fais pour m'économiser? Comment je fais pour pouvoir continuer à avoir des ambitions ?» Tout en me grillant pas, quoi. Et ça, c'est un vrai sujet, je trouve. Et d'ailleurs, je remercie la MSA qui a lancé un programme au niveau de Berry Touraine pour justement travailler sur ces sujets d'équilibre vie pro-vie perso avec un coach et mentor qui s'appelle Nicolas Rimbaud. Et donc ça, c'est des sujets qui sont vraiment intéressants à travailler, je trouve, en amont.
Et donc, ma dernière petite question piège. qui souhaiterais-tu entendre lors d'un prochain podcast ?
Il y a tellement de gens inspirants. C'est vrai qu'en réfléchissant un petit peu, en me posant vraiment la question de qui pour moi coche toutes les cases et à la fois dans la performance économique et dans et dans le développement durable à fond les ballons. C'est des partenaires avec qui j'ai, enfin c'est des clients du coup, et des partenaires avec qui j'ai l'occasion de travailler, qui sont juste dingues. C'est l'entreprise Grand Sale, que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être déjà vu en grande surface ou dans des épiceries fines des plaquettes de chocolat, des tablettes de chocolat dans un emballage cartonné avec un petit voilier dessus. Parce que ça s'appelle Grain de Sail, S-A-I-L, car en fait, le projet, dès le départ, imaginé par deux frères, Olivier et Jacques Barraud, à Morlaix, en Bretagne, c'est d'aller chercher les matières premières café et cacao en voilier cargo. Et donc, ils ont monté d'abord leur entreprise. Alors, évidemment, c'est bio, c'est équitable. Ils font travailler un ESAT pour tout le travail manuel. Enfin, vraiment, je vous dis, ils cochent toutes les cases. Ils sont hyper simples, hyper ambitieux. Et ils ont réussi à construire le premier voilier cargo normé marine marchande de l'ère moderne, avec une charge utile de 50 tonnes. Et ils se sont dit, on va pas voyager à vide pour aller chercher nos matières premières. Donc, qu'est-ce qu'on peut, nous, exporter vers le continent américain qu'on fait bien ? Eh ben, des vins et des bières bio. Et donc, mes vins sont partis à New York.
Ah, c'est génial.
Dans les cales du premier voilier cargo moderne, grâce à Grain de Sail. Et ils sont en train de lancer la construction du deuxième avec une charge utile de 250 tonnes.
C'est incroyable.
Donc, ouais, c'est un projet de ouf.
Ah, mais
et
c'est
eux, ils sont absolument géniaux. Et donc, ça, c'est des gens super inspirants parce qu'ils sont à la fois vraiment, vraiment très humble, modeste, talentueux et avec des valeurs que je partage complètement.
Mais moi, j'ai hâte. Prenons rendez-vous. Partons en Bretagne. Je propose à Sébastien qui me regarde l'air de dire « Géraldine, il faut arrêter ».
Non, pas de...
Non, mais l'été, c'est la bonne période.
Pour voilà, on peut. Ça. Pas de problème. On est prêts à les écouter, à les entendre.
Merci beaucoup, Isabelle, pour
merci
ce super
toi,
témoignage.
Merci, Sébastien.
On l'aura compris, l'équilibre, c'est vraiment le secret de la réussite. Et si on veut tenir sur le long terme, Isabelle nous l'a bien expliqué. Un grand merci à Yann d'Adar Studio pour le mix et la musique. Je vous dis à très bientôt et vous remercie pour votre écoute.